Le MAG sur Radio Lacaune.
Aujourd'hui, je me trouve avec Sophie Favre-Réguillon qui est avec nous par téléphone. Elle est chargée de mission eau et changement climatique pour le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, en quoi le territoire du parc naturel régional est, du Haut-Languedoc, bien sûr, est-il important dans la distribution de l'eau pour toute la région finalement?
Alors, le territoire du parc, c'est vraiment une ressource stratégique au niveau de l'eau. On parle même de château d'eau. D'une part, il bénéficie d'une pluviométrie qui est vraiment importante. Elle est quasiment deux fois plus importante que les plaines en contrebas en direction de Béziers ou de Toulouse. Et en plus de ça, c'est un territoire qui se situe en tête des bassins versants de la Goutte, côté Atlantique, et de l'Orbe, côté Méditerranée. En fait, pour vous résumer les choses, les cours d'eau qui alimentent les plaines environnantes qui se situent en contrebas des reliefs prennent tous leurs sources dans le territoire du Haut-Languedoc.
Donc c'était vraiment important d'embaucher quelqu'un au parc pour s'occuper de cette question de l'eau. Ça paraissait primordial, c'est bien ça?
Voilà, tout à fait.
Alors vous êtes en mission depuis un an, vous travaillez avec le syndicat mixte du bassin de la Goutte. Quelle était votre mission pour qu'on comprenne bien la suite de l'interview?
Alors pour repréciser, la structure, le syndicat du bassin de la Goutte est la structure qui gère les milieux aquatiques et la prévention des inondations sur un territoire, le bassin versant de la Goutte, qui englobe la partie tarnaise du parc. L'objectif de cette mission, en raison des enjeux sur la ressource en eau que je vous expliquais précédemment, c'est de se projeter en 2050 et de voir comment le territoire et la ressource en eau risquent d'être impactés par le changement climatique et aller au-delà de l'impact sur la ressource et voir comment toutes les activités qui dépendent de la ressource risquent d'être impactées à leur tour par ces changements-là.
Pour bien comprendre, en premier lieu, il vous a fallu connaître aussi quels allaient être ces changements climatiques et donc du coup, il vous a fallu déterminer un petit peu les tendances climatiques des prochaines années.
Tout à fait. Alors, pour ça, on s'est appuyé sur des études qui existent déjà, des études qui sont réalisées par des climatologues, des hydrologues. Et ces études, elles nous ont permis déjà de dire deux choses. C'est que le changement climatique, c'est pas quelque chose qui va se produire dans le futur, mais qui se produit déjà. On sait que sur le territoire du parc, on a gagné à peu près 1,5 degré ces 50 dernières années. Et en plus de ça, ces études nous montrent que c'est une tendance qui va se poursuivre. C'est un réchauffement qui va se poursuivre. On parle même de méditerranéisation du climat, puisque les températures chaudes qu'on voit actuellement que sur le littoral vont avoir tendance à remonter vers l'intérieur des terres. Et le sud-ouest, c'est vraiment une région qui va être particulièrement impactée par ces changements. Et par contre, au niveau de la pluviométrie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à définir. Les modèles climatiques classiques ont du mal à visualiser vraiment qu'est-ce qui va se passer en termes de changement. Par contre, aujourd'hui, on sait que la hausse des températures à elle seule va vraiment bouleverser le cycle de l'eau, puisqu'on attend sur le territoire des baisses de débit moyen sur une année de 20 à 50%, ce qui est assez énorme.
En sachant en plus que du coup, on ne connaît pas tout ce qui est la pluviométrie, donc on ne sait pas si ça va être encore plus impacté ou un petit peu moins impacté.
Pour le moment, au niveau de la pluviométrie, on table sur des cumuls annuels qui devraient être similaires. Par contre, c'est la répartition des pluies au cours de l'année où on a plus d'incertitude. Il est possible qu'on ait des périodes, notamment en été, qui soient beaucoup plus longues sans pluie. C'est déjà quelque chose qu'on a tendance à ressentir. Mais effectivement, les modèles climatiques, pour le moment, pêchent un petit peu à nous donner des précisions sur ces aspects.
Le MAG sur Radio Lacaune.
Je suis aujourd'hui avec Sophie Favre-Réguillon, chargée de mission eau et changement climatique au parc naturel régional du Haut-Languedoc. Avec elle, nous parlons du changement climatique et d'un diagnostic qui est en train d'être fait sur le Haut-Languedoc, notamment donc sur la distribution de l'eau. Et ce travail est effectué avec le syndicat mixte du bassin de la Goutte. Alors, Sophie, en première partie d'émission, vous nous avez expliqué un petit peu quelles étaient les tendances climatiques des prochaines années. On a vu que du coup, les débits d'eau et des cours d'eau allaient baisser. C'est bien ça?
Alors, je peux pas vous dire sur l'heure actuelle au niveau d'une tendance. Par contre, on remarque des années particulièrement chaudes comme 2019. Effectivement, on a vu les débits des rivières qui étaient particulièrement impactés. Par contre, c'est surtout dans l'avenir qu'on s'attend à des baisses.
Alors du coup, quels sont les grands domaines d'activité qui pourraient être impactés donc sur le bassin de la Goutte, puisque c'est vraiment celui que vous avez étudié, mais finalement, ça, c'est quelque chose d'assez général.
Alors, nous, sur le bassin versant de la Goutte, on s'est focalisé sur les grands usages de l'eau. Alors évidemment, l'alimentation en eau potable, mais aussi l'agriculture, que ce soit pour l'irrigation ou même pour l'abreuvement en eau du bétail, l'hydroélectricité, le tourisme aussi également. Après, on a souhaité aussi étudier les milieux naturels, cours d'eau, zones humides et toutes les espèces qui en dépendent, puisque eux aussi vont être impactés par ces changements.
Et alors, du coup, quels impacts peut-on imaginer pour ces activités dans les années à venir, d'ici 2050?
Alors, il y a plusieurs impacts. Tout d'abord, effectivement, comme on s'attend à une raréfaction de la ressource et une dégradation de la qualité de l'eau, on va avoir des impacts directs sur les activités. Si je prends l'exemple de l'eau potable, sur les plateaux, on a des communes qui dépendent de petits captages d'eau, de sources qui sont finalement assez peu productives. On peut s'interroger effectivement sur le fait qu'une raréfaction de la ressource risque d'entraîner peut-être des problématiques pour l'approvisionnement en eau potable de manière temporaire, notamment en période estivale, qui est une période un peu critique. Au niveau du tourisme, on a un tourisme là aussi sur les plateaux qui est vraiment tourné vers les lacs, les milieux aquatiques. Sauf que ces lacs ont d'autres vocations, comme par exemple le soutien d'étiage. Le soutien d'étiage, c'est lorsque nous avons le niveau d'eau le volume d'eau dans la rivière qui est particulièrement bas en été. Une partie du volume d'eau du lac est redonnée à la rivière, ce qui permet dans les plaines en contrebas justement que les usages d'irrigation, d'alimentation en eau potable puissent se poursuivre. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que si demain la raréfaction de la ressource s'accentue, le volume d'eau dans les lacs redonnés aux rivières va peut-être augmenter et on ne sait pas encore si on pourra maintenir un niveau d'eau suffisant dans les lacs pour maintenir les activités nautiques.
D'accord. Alors, oui.
Là, je vous parlais des impacts directs, mais il y a une autre chose que l'on craint, c'est ce qu'on appelle les conflits d'usage. Sur le territoire, on a des ressources stratégiques, ce sont ces retenues d'eau artificielles. Et sur ces retenues d'eau, je vous parlais du tourisme, il y a d'autres activités qui peuvent se greffer, comme je vous parlais du soutien des stages, mais on a aussi l'alimentation en eau potable et l'irrigation. Demain, dans un contexte de raréfaction de la ressource, en même temps des usages qui vont avoir besoin de plus d'eau, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des rivalités entre les différentes activités pour avoir accès à cette ressource en eau.
Et donc vraiment, le travail de diagnostic que vous avez fait va servir en fait à préparer un petit peu ce qui va se passer d'ici 2050. Ça peut être un outil de prise de décision, c'est ça?
Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on veut, c'était aller au-delà de la hausse des températures dont on entend beaucoup parler, montrer vraiment une hausse des températures. C'est pas simplement des hivers plus doux qui vont être plus confortables à vivre. Le changement climatique, c'est vraiment quelque chose qui va avoir des impacts au quotidien dans toutes nos activités. Et il était vraiment nécessaire de faire cette étude pour amener à une prise de conscience de tous les acteurs du territoire, acteurs économiques, habitants, les élus locaux, pour qu'ensuite tout le monde puisse se saisir de cette question et voir comment intégrer le changement climatique dans ses actions. L'idée, c'est vraiment de plus être dans la réaction face à une crise, mais vraiment d'anticiper les changements à venir pour trouver des pistes pour s'adapter.
Et du coup, ce travail de diagnostic, ce diagnostic que vous avez fait, tout ce travail, ces données, est-ce qu'on peut les consulter en tant que peut-être particulier ou en tant qu'élu? Est-ce qu'on peut les trouver facilement?
Alors, pour le moment, l'étude n'est pas tout à fait finalisée. Quand elle sera finalisée, elle sera consultable, mais je n'ai pas de détails de date ou de modalité de diffusion pour le moment à vous communiquer.
D'accord. Donc, dans un second temps, quand vraiment toute votre mission sera terminée, on pourra consulter ce diagnostic, puisque c'est vraiment là le but, c'est qu'il soit accessible à tous et que ces données soient connues et qu'on en prenne finalement conscience pour l'avenir.
C'est ça.
Voilà. Écoutez, Sophie Favre-Guillon, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué si simplement le travail que vous effectuez, la mission très importante de ce diagnostic finalement des tendances climatiques, des baisses d'eau qui pourra arriver d'ici 2050. Merci.